on reconstitue le jumeau virtuel par nuage de points. Et donc, ce sont des données qui ont permis à la fois aux scientifiques de mieux comprendre la cathédrale et aussi de faciliter finalement le chantier de reconstruction de la cathédrale.
Bonjour Medita Yubi.
Bonjour.
Vous êtes vice-président innovation chez Dassault Systèmes. Nous sommes au musée de l'architecture à Paris, au Trocadéro. Vous venez de m'emmener faire une visite, alors une visite virtuelle dans Notre-Dame. Et c'est une visite à la fois dans l'espace et dans le temps grâce à un casque de réalité virtuelle. Et c'est donc une expérience et une exposition hein, qui est présentée ici. Vous pouvez nous la décrire un peu, en quoi ça consiste?
Alors effectivement, Jérôme, on est ici à la Cité de l'architecture et du patrimoine, dans lequel Dassault Systèmes, à travers un partenariat avec le musée, a créé un espace qu'on appelle un téléport et qui permet de se téléporter à l'échelle 1-1, à l'échelle grandeur nature, dans des données tridimensionnelles. Donc c'est un espace où on accueille avant tout des chercheurs et des scientifiques. Et en l'occurrence, depuis plus d'un an et demi, on travaille avec le CNRS à travers toutes les données en fait tridimensionnelles de la cathédrale, des empreintes qui ont été prises à différents moments de la vie de la cathédrale. Donc on va avoir des nuages de points qui ont été faits avant l'incendie, des nuages de points qui ont été faits juste après, des nuages de points qui représentent aussi l'avancée du chantier de reconstruction de la cathédrale. Et on propose en fait au grand public de se mettre dans la peau de ces chercheurs qui sont venus ici faire plusieurs ateliers de travail dans ces données et de leur montrer à quoi peut ressembler ces données professionnelles, ces données scientifiques pour mieux comprendre la vie de la cathédrale et le chantier de reconstruction.
Voilà, il faut bien comprendre que c'est pas un jeu vidéo, c'est pas une animation touristique, ce sont vraiment des modèles virtuels, professionnels qui ont servi à reconstruire la cathédrale.
Alors tout à fait, ce sont des données issues en fait de relevés professionnels qui ont été faits soit par relevé laser avec des appareils qu'on appelle des lidars, soit par photogrammétrie, c'est-à-dire prendre plusieurs centaines de photos et puis ensuite avec des algorithmes on reconstitue le jumeau virtuel par nuage de points. Et donc ce sont des données qui ont permis à la fois aux scientifiques de mieux comprendre la cathédrale et aussi aux restaurateurs, aux reconstructeurs, de faciliter finalement le chantier de reconstruction de la cathédrale.
Donc on peut se promener dans une cathédrale grandeur nature, mais on peut également observer une maquette de la cathédrale, on peut se déplacer en hauteur, on peut aller sur le toit. Vous m'avez emmené tout à l'heure là où se trouvait la flèche précédemment, la flèche de la cathédrale qui a brûlé. C'est assez impressionnant, mais ça a vraiment servi donc à toutes les équipes scientifique pour arriver à faire quoi? À refaire Notre-Dame de Paris comme elle l'était à l'origine?
Alors ça permet avant tout aux scientifiques, c'est-à-dire ce qu'on souhaitait c'était que les scientifiques s'approprient nos outils logiciels et eux-mêmes soient capables de créer leur propre scénario de déambulation pour pouvoir organiser des réunions transdisciplinaires, c'est-à-dire se dire bah tiens moi je suis spécialiste du bois, j'ai envie de discuter avec un spécialiste du métal, un spécialiste de la pierre, on va se téléporter au lendemain de l'incendie, sur les vestiges, sur l'extrado des voûtes, et on va pouvoir discuter d'hypothèses que l'on avait émises dans nos labos. Mais finalement, le fait de se retrouver à plusieurs, téléporter dans ces données tridimensionnelles à l'échelle 1-1, ça facilite les discussions, ça facilite aussi la validation de certaines hypothèses. Je prends pour exemple ce qu'on a fait par exemple avec le groupe de travail bois, qui eux étudient les datations des vestiges en bois de charpentes qui ont été retrouvées, essayer de comprendre leur localisation initiale par rapport à la charpente d'origine, pour pouvoir en fait affiner par exemple des hypothèses de datation en se disant tiens, le bout de bois, le vestige que j'ai étudié en laboratoire, si je retourne dans le temps, je remonte dans le temps et je vais sur l'extrado des voûtes, je peux voir ce bout de bois, ce vestige sur l'extrado tel qu'il était après l'incendie, et se dire bah, tiens, a priori, il a dû rouler de telle position à telle position, et si je resuperpose la charpente remodélisée, je vais me dire qu'elle vient de cet endroit-là, par exemple.
Alors, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de l'architecture, qu'est-ce que c'est qu'un extrado?
L'extrado, c'est l'extérieur des voûtes.
D'accord.
Voilà.
Et donc, quand on se promène dans cette cathédrale virtuelle, donc il faut bien comprendre que ce sont des points, c'est un nuage de points. Donc l'image n'est pas, elle est à la fois ultra réaliste et pas ultra réaliste. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément toutes les textures, il n'y a pas tout le. Mais en même temps, il y a beaucoup de détails et toutes les mesures sont exactes.
On est vraiment dans une empreinte tridimensionnelle de la cathédrale, précise au millimètre, puisqu'en fait, on va faire des relevés, enfin, les relevés lasers qui sont effectués permettent de prendre l'empreinte, la position de chaque point dans l'espace, son code colorimétrique. Et donc, c'est ce qu'on peut avoir vraiment de plus précis en termes de copie d'instantané de la cathédrale à un moment donné.
Comment est-ce que vous avez fait, en fait? Vous êtes parti de quel type de document pour arriver à reconstituer ce jumeau numérique?
Alors nous ici, dans ce système, on met à disposition à la fois l'infrastructure du téléport et les logiciels qui permettent de collaborer, mais les données ont été prises en fait par différentes institutions. Alors par exemple, quand on se retrouve dans la cathédrale avant l'incendie dans les années 2012, on est dans la seule empreinte tridimensionnelle qui existe de la cathédrale avant l'incendie, et elle a été, ce sont des relevés qui ont été effectués par un chercheur qui s'appelle Andrew Talon, qui malheureusement nous a quittés, mais finalement a légué à la fois à l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, mais aussi au CNRS, des données hyper importantes qui permettent d'avoir un témoignage tridimensionnel, cette empreinte, avant l'incendie. Ensuite, d'autres données ont été effectuées, d'autres prises de mesures, par les équipes du CNRS, qui par relevé laser ou par photogrammétrie, ont pu, à différents moments du chantier, capturer ces moments de vie de la cathédrale.
On peut dire merci à Andrew Talon aujourd'hui, hein?
Absolument, on peut dire merci à Andrew Talon et à Marie Talon qui a mis à disposition ces données pour les chercheurs et les constructeurs de la cathédrale.
Oui, parce qu'il est, donc il est décédé avant même l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est ça?
Malheureusement, effectivement, Andrew Talon nous a quittés en 2018 et donc il n'a pas assisté à cette tragédie. Et je pense qu'il n'aurait pas imaginé à l'époque que son travail finalement d'universitaire et son relevé allaient être à la fois capital pour les constructeurs et pour les scientifiques.
Ouais, c'est intéressant juste de raconter ça en quelques minutes. C'est que en fait, il était là, il a passé 3 jours sur place avec des lidars, donc des équipements qui permettaient de tout scanner intérieur, extérieur. Mais lui, il cherchait complètement autre chose. C'était pas du tout pour des questions de reconstruction.
Alors, il était absolument pas dans une notion, on va dire, de préservation de la mémoire du bâtiment. Je pense qu'après l'incendie, on a réalisé à quel point ce type de relevé, de campagne, de numérisation était importante pour préserver en fait la mémoire à différents moments de la cathédrale ou d'autres monuments. Au même titre qu'ici, vous êtes à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et vous avez des moulages au plâtre à l'échelle 1 du patrimoine français tel qu'il était au 19e. Et donc, c'est hyper important pour comprendre aussi la vie d'un monument. Donc aujourd'hui, on va plus utiliser le plâtre, on va utiliser ce type de technique. Et à l'époque, Andrew cherchait à valider une hypothèse qu'il avait sur le principe de construction de la cathédrale et avait besoin de prendre des mesures hyper précises des murs intérieurs, notamment de la cathédrale, pour pouvoir faire des mesures sur son ordinateur.
Et puis après, il y a eu d'autres relevés, vous le disiez, avec d'autres procédés, ce qui fait qu'on peut voir la cathédrale avant et après l'incendie aussi. C'est ça qui est intéressant.
Tout à fait, on peut voir la cathédrale avant l'incendie, juste après, c'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire qu'on peut se téléporter des endroits où même les scientifiques ne pouvaient pas accéder, comme je vous disais, sur l'extrado des voûtes avec l'ensemble des vestiges. Et on va pouvoir aussi suivre l'évolution du chantier de reconstruction de la cathédrale à travers d'autres relevés qui ont été faits à différents moments, les plus récents datant du mois de décembre.
C'est la première fois qu'on fait ça pour un monument historique, Melita Yubi?
Alors, des relevés 3D pour les monuments historiques qui sont assez fréquents, parce que souvent, quand on a, par exemple, des travaux de restauration à effectuer, l'architecte en chef va demander des relevés précis de certaines zones qu'il doit restaurer, mais souvent, il va pas forcément travailler directement avec le nuage de points, le fichier brut. Il va demander aux entreprises en charge de cela de faire ensuite des vues en coupe, des plans d'architecte pour pouvoir ensuite avancer sur ces travaux de restauration. Mais là, c'est la première fois, en fait, que les scientifiques ont pu collaborer en s'immergeant dans de la donnée tridimensionnelle issue du nuage de points. Et ça ouvre en fait des perspectives, notamment sur la préservation de la mémoire. Et ça éveille aussi l'ensemble des acteurs à la nécessité de faire ce type de campagne de numérisation à intervalles réguliers.
Alors, il faut dire que vous aviez également déjà réalisé des jumeaux numériques, on peut appeler ça comme ça, de la grotte de Lascaux et de la grande pyramide d'Égypte, c'est ça?
Tout à fait. En fait, ce qu'on fait ici au sein de la Cité de l'Architecture, c'est qu'à travers ces collaborations dans le domaine du patrimoine, nous, en tant que d'Assosystème, en tant qu'éditeur de logiciels, ça nous permet, on va dire in vivo, de réfléchir et d'inventer en fait ce type de logiciel qui facilite la collaboration pour les scientifiques, pour les chercheurs. Et comme on est dans un musée, ça permet finalement en temps réel d'exposer aussi l'état de l'avancée de la recherche et de nos développements au grand public et d'éprouver nos développements ici, qui ont ensuite une utilisation aussi dans le monde industriel et dans nos métiers plus classiques, qui sont le monde de l'industrie et les jumeaux virtuels dans le monde de l'industrie. Et effectivement, le premier projet, c'était autour de la mission Scan Pyramids que je co-dirige. L'intérêt étant de pouvoir se re-téléporter en Égypte à n'importe quel moment, de pouvoir étudier les découvertes que l'on a réalisées au sein de la pyramide. Et par exemple, actuellement, on a découvert sur la face nord de la pyramide de Khéops un couloir qui n'avait pas été vu depuis 4500 ans. On l'avait découvert par des techniques de myographie, on l'avait validé par des techniques d'ultrason, de radar, et en février de l'année dernière, on a pu, avec un petit trou de 5 mm, introduire un endoscope dans ce couloir qui n'avait jamais été vu, effectuer un relevé de 2000 photos, en faire le jumeau virtuel, et actuellement, on étudie avec les archéologues et les égyptologues ce couloir ici dans ce téléport, puisque c'est un couloir qui aujourd'hui est inaccessible.
Il est inaccessible. Personne n'a jamais pu rentrer dans ce couloir.
Sauf en réalité virtuelle.
Et voilà. Impressionnant. D'autres projets en perspective ?
Alors, d'autres projets, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce téléport est le premier du genre. Il a été incubé en termes d'innovation ici à la Cité de l'Architecture. Et on est en train de dupliquer le concept dans nos différents bureaux de Dassault Systèmes. Donc, on a un téléport en cours de construction aujourd'hui sur notre campus à Vélizy et d'autres en prévision dans d'autres sites de Dassault Systèmes pour pouvoir accueillir nos clients industriels dans des immersions, on va dire, liées à leurs données industrielles qui sont conçues dans nos logiciels dans notre plateforme.
Et est-ce que vous pouvez nous dire également un petit mot de l'équipement qui est utilisé ici pour bien faire ces visites virtuelles? Qu'est-ce que ça permet aujourd'hui? Et est-ce qu'il n'y a pas des limitations? Et est-ce que vous avez des perspectives de dépasser ces limitations dans le futur?
Alors aujourd'hui, l'équipement qui est utilisé, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une bonne carte graphique 3D, c'est pour ça qu'on est encore équipé d'un sac à dos. Aujourd'hui, effectivement, il y a certaines expériences en VR, notamment grand public, on a juste un casque, mais on a, on va dire, la puissance de calcul d'un téléphone mobile sur un casque. Donc, on est obligé de réduire finalement le nombre de polygones, le nombre de textures, le poids de ce qu'on va afficher. Aujourd'hui, on essaye aujourd'hui, comme on a des modèles hyper lourd, souvent affiché des nuages de points. Par exemple, le nuage de points dont on parlait dans Drew Talon, même s'il date de 2012, il est constitué d'1,4 milliard de points. Et donc, aujourd'hui, ça sollicite énormément la carte graphique.
Il faut que ça suive derrière.
Il faut que ça suive. Donc,
vos processeurs.
Donc, on est confiant puisque de toute façon, la puissance de calcul va continuer à augmenter. On va bientôt s'affranchir des sacs à dos et faire du rendu déporté. Mais finalement, on est agnostique en termes de hardware. On a préservé, maintenu les caméras de tracking parce qu'on a besoin d'avoir, notamment quand on prend des mesures, quand on est en étude en immersion, on a besoin de prendre des mesures hyper précises. On a besoin d'avoir ces caméras de tracking pour avoir des mesures au millimètre près. Mais finalement, ce qu'on essaye de faire avant tout, c'est de rendre les logiciels qui permettent de créer ces scénarios de déambulation les plus simples possibles. Ce qu'on voulait, c'était que les chercheurs du CNRS eux-mêmes créent leurs réunions, invitent ensuite leurs collaborateurs et leurs pairs dans leur discipline ou dans d'autres disciplines et créent leurs scénarios. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'on veut que nos logiciels puissent être utilisés par nos stagiaires troisièmes. Et donc, c'est ce qu'on s'attache à faire ici.
Voilà. Donc, cette exposition qui est donc ouverte à tous, hein, n'importe qui peut venir.
Tout à fait. Maintenant, les ateliers de travail avec les scientifiques vont continuer, mais on ouvre ce téléport au grand public les jeudis, les samedis. Ce sont toujours des petits groupes, c'est pas plus de 6 personnes. On a toujours un médiateur réel, une intelligence naturelle du guide conférencier avec qui on va pouvoir discuter, échanger, et on est aussi ouvert pendant toute la période des vacances scolaires.
Merci beaucoup Mehdi Tayoubi, vice-président innovation chez Dassault Systèmes.
Merci à vous Jérôme.